Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Le service politique, le balado quotidien des reporters du service politique de BFM TV. Je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Bonjour. Dans cet épisode, nous parlons avec Mathieu Coache et Agathe Lambray qui se trouvent à Dijon pour suivre un déplacement du candidat Macron. En fait, l'un des rares déplacements du candidat Macron sur le terrain dans cette campagne, à quelques jours du premier tour de la présidentielle, puisque nous sommes le mardi 29 mars. Et donc le choix des Français, le second tour, c'est dans seulement 26 jours. Salut à tous les deux.
Salut Philippe.
Salut Philippe.
Bon alors dites-nous où est-ce que vous êtes, Agathe puis Mathieu.
Alors, on
est devant l'école du chef Thierry Marx, où Emmanuel Macron est en train de discuter avec les équipes, les stagiaires, les apprentis. Et on est sur une place dans un quartier de Dijon qui s'appelle la Fontaine d'Ouche et qu'en fait qui est un quartier un peu difficile, enfin qui bénéficie de la politique de rénovation urbaine, qui est en pleine rénovation, donc qui est assez dynamique voilà, depuis quelques années, mais qui reste un quartier en fait en marge de Dijon. C'est pas la Bourgogne des cartes postales, c'est un quartier très mélangé et ça s'est vu tout au long de la journée.
Donc là,
je suis ravi que Agathe ait répondu parce que comme ça fait 1h45 qu'on fait un énorme bain de foule, je ne savais plus du tout où on était. Donc en fait, merci Agathe d'avoir resitué les choses.
Parce que là, il est 20h. Le début du déplacement du président, enfin du candidat Macron, c'était à quelle heure?
Le début du déplacement, c'était à la mi-journée. Ça a commencé à la mi-journée par une première étape dans un lycée professionnel. Ça a continué. Agathe, la deuxième étape, aide-moi.
La deuxième étape, c'était un échange avec des associations, justement dans le quartier de la Fontaine d'Ouche, là où on se trouve maintenant. Et Macron a échangé pendant assez longtemps avec des associations dans une salle. Mais avant ça, en arrivant, il avait déjà fait un bain de foule. Et ensuite, en quittant cette salle, il a fait une espèce de déambulation. Mais ce n'était pas vraiment une déambulation parce qu'on était un peu sur une place, en fait. Mais c'est vrai que c'était impressionnant parce qu'il y avait énormément de monde. Et le bain de foule, avant l'échange avec les associations, était aussi assez impressionnant. Il y avait une ambiance assez électrique. La sécurité, avant que le président arrive, était un peu tendue parce qu'il y avait un mélange à la fois de femmes ukrainiennes qui étaient là avec des drapeaux ukrainiens et des pancartes « Sauver Mariupol ». Et en même temps, il y avait aussi un gilet jaune qui avait été identifié, visiblement qui suit le président sur différents déplacements. Enfin, il n'y avait pas que des gens extrêmement bienveillants. Et comme c'était un peu improvisé ce bain de foule, il n'y avait pas eu vraiment de filtre en fait. Donc la sécurité a juste mis un petit cordon au dernier moment. Et d'ailleurs, il y a une personne qui s'est fait virer. Il y a des échanges qui étaient un peu tendus, mais bon, globalement, on peut dire quand même que ça s'est bien passé.
Ouais. Si je ne me trompe pas, alors que la campagne de premier tour prend fin vendredi soir la semaine prochaine, donc très prochainement, c'est le premier vrai déplacement de campagne de terrain du candidat Macron. Certes, il était à la Poissy et à Pau, mais c'était dans des échanges un peu plus organisés. Là, le premier vrai contact de terrain, c'était aujourd'hui.
Oui, c'était de loin le premier déplacement de campagne. Après, quand on a suivi Emmanuel Macron pendant ce quinquennat, en fait, c'était pas non plus des choses totalement inédites, parce que des bains de foule comme celui-ci, il en a déjà fait, mais c'était la première fois de cette campagne effectivement qui prenait autant de temps à discuter avec les gens. Tu sais qu'au début l'entourage de Macron avait dit qu'il se mettrait à hauteur d'homme pour leur parler, enfin d'hommes et de femmes, pour leur parler, pour échanger de leurs problèmes. Alors voilà, ça a été, voilà, la promesse a été tenue aujourd'hui, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent, puisque les échanges, on en avait parlé, étaient beaucoup plus organisés, cadrés et un peu trop préparés même parfois.
Est-ce que c'est, selon vous, est-ce que c'est parce qu'il y a une petite légère érosion dans les sondages, même s'il reste loin devant Marine Le Pen, mais si c'est pas, est-ce que c'est parce qu'il y a une petite érosion dans les sondages qu'ils se sont dit il est temps de le montrer au contact des Français et au contact vraiment au sens propre du terme, très proche des Français?
C'est sûr que ça coïncide, en tout cas, et ça c'est simplement factuel, ça coïncide avec son tassement dans les sondages et avec la dynamique de Marine Le Pen. C'était marrant d'ailleurs parce que tout à l'heure, quand on attendait Emmanuel Macron, quand il échangeait avec les associations, on a reçu le rolling IFOP.
Oui.
Et donc tous
le
les journalistes ont commencé à commenter ce sondage. Voilà.
Ouais.
Et le jour où ce sondage montre que l'écart se resserre, mais encore plus avec Marine Le Pen, qu'elle progresse encore plus au premier tour et au second tour, on voit le président qui ne compte pas ses heures et qui se démène sur le terrain. Évidemment, oui, dans son entourage, il y avait une petite inquiétude à le voir ne pas faire campagne alors que la dynamique n'est pas en sa faveur pour l'instant. Donc c'est sûr qu'il voulait certainement corriger le tir.
Un petit truc, Philippe, tu sais, la dernière fois pendant le podcast, quand on était à Bruxelles, tu me demandais si son entourage avait bien conscience des questions de temps de parole. Alors, certains peut-être, mais d'autres non. Parce que ce qui est assez marrant, c'est que toute la journée, on nous a demandé si BFM diffusait bien ces images du bain de foule. Et ils étaient assez surpris, en fait, dans les attachés de presse, dans l'équipe de La République En Marche qui suit Macron pendant la campagne, d'apprendre qu'en fait, on ne diffusait pas grand-chose, qu'il fallait choisir les morceaux parce qu'il y a cette question d'égalité de temps de parole, et donc une minute de Macron égale une minute des 11 autres candidats, et donc c'est vrai que BFM TV doit faire attendre. Mais voilà, ils n'étaient pas tellement au courant finalement, ils étaient surpris et déçus en fait.
Enfin, en tout cas, ça montre, je ne sais pas si c'est de l'impréparation, mais au moment où il a besoin vraiment de descendre dans l'arène, on est en égalité parfaite et c'est plus difficile de couvrir ses déplacements. Est-ce qu'il avait anticipé ça? J'imagine que dans son entourage, il y a des gens qui savent très très bien qu'aujourd'hui commençait l'égalité parfaite et que ce serait plus difficile certainement de montrer des passages d'Emmanuel Macron à l'antenne. Mais peut-être que ce n'était pas prévu que...
Agathe, puisque tu parles du rolling IFOP, il faut expliquer ce que c'est. C'est un sondage quotidien fait par l'IFOP et qui est publié tous les jours. Alors, le sondage du jour, Emmanuel Macron est à 28%, il est stable. Marine Le Pen à 21%, elle prend 0,5 points. Et au second tour, Emmanuel Macron est donné seulement, entre guillemets, à 53% face à Marine Le Pen à 47%. Donc, effectivement, ça se resserre. Et quand on regarde le sondage IFOP sur un mois, c'est très net de voir que ça se resserre. Et même si on poursuit la courbe de tendance de Marine Le Pen, elle peut ne pas être très loin du tout d'Emmanuel Macron le 10 avril si on suit cette tendance dessinée par l'IFOP. Alors, moi, de loin, parce que j'étais de loin, moi, y a deux moments qui m'ont frappé. D'abord, un échange sur le pouvoir d'achat. Qui était à côté du président à ce moment-là?
Alors, un peu tout le monde et un peu personne, si tu veux, parce que c'est comme tu as pu le voir, il y avait énormément de monde, et donc on entendait des bribes. Parfois, on était un peu éloigné, mais clairement, la question du pouvoir d'achat, elle est revenue pendant tous les échanges. Enfin, je pense
parce qu'en fait, il y a eu plusieurs échanges.
Ah, je pense celui qu'un monsieur qui disait qu'il n'avait plus d'argent.
Ah oui, alors ça c'était au début, il y avait un monsieur qui disait qu'il n'y avait plus d'argent, mais...
J'y étais, c'est celui où j'étais. Ouais, mais c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. C'était assez poignant comme témoignage, parce qu'il expliquait que jusqu'à présent son salaire lui avait permis de vivre correctement, qu'il pouvait épargner, qu'il pouvait partir en vacances, mais qu'avec la hausse des prix et tout ça, il ne s'en sortait plus, que tout était difficile, faire le plein c'était difficile, remplir son frigo c'était difficile... Et donc, voilà.
Et il disait qu'il fallait faire quelque chose, quoi. Et là, le président répondait, on a fait ceci, on a mis 20 milliards.
Oui, Emmanuel Macron répondait avec des mesures concrètes, par exemple les chèques qui ont été annoncés pour l'énergie, tout ça. Mais l'homme, il répondait, mais avec qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 24 euros par mois en plus? Enfin, en fait, c'était un peu un dialogue de sourds, parce qu'Emmanuel Macron voulait lui montrer qu'il avait bien fait. Mais quoi qu'il dise, l'homme lui démontrait par A plus B que concrètement, sa vie ne s'était pas améliorée et qu'elle s'était même dégradée. Donc on touche aussi un peu à l'impuissance. Enfin, le président ne peut pas tout et ne peut pas résoudre une situation.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un décalage effectivement entre ce qu'Emmanuel Macron pense avoir fait pour les gens. Il y avait une femme handicapée aussi qui lui disait qu'elle avait pas assez d'argent et puis lui dit mais on a remonté le montant des minima pour les handicapés et lui répondait mais moi j'ai pas vu la différence en fait. Et donc je pense que lui, plein de bonnes intentions, ou en tout cas veut montrer qu'il a fait plein de choses pendant ce quinquennat, mais que ça, mais les gens ne lui rendent pas, en tout cas, puisqu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir profité vraiment de ces mesures, et c'est pas tellement tangible dans leur porte-monnaie, quoi.
Et c'était dans un contexte où le déplacement se passait à Dijon, dans la ville de François Rebsamen, qui a longtemps été une figure du Parti Socialiste, proche de François Hollande, et qui vient de rejoindre la majorité d'Emmanuel Macron, tout en disant qu'il est toujours de gauche. Donc c'était aussi cette dimension sociale que voulait aujourd'hui montrer le candidat Macron, en tout cas montrer qu'il s'adresse aussi à la gauche. C'était bien l'intention du jour, non ?
Ah ben c'est sûr que la thématique du jour, l'éducation déjà qu'il veut mettre au cœur de son programme, la jeunesse, la formation, la politique de la ville, ce sont des thèmes qui parlent à la gauche après une présentation du programme de laquelle on a retenu qu'elle était de droite. Et ouais. Ça, l'équipe de campagne de Macron a conscience qu'il fallait corriger le tir, d'où ce déplacement aujourd'hui et un autre sur l'écologie dans la semaine, donc des thématiques de gauche. Et en plus, ce déplacement à Dijon visait évidemment à consacrer le ralliement de François Rebsamen, ancien numéro 2 du Parti Socialiste, proche de François Hollande qui a rallié Emmanuel Macron début mars. Donc il fallait mettre en scène ce ralliement pour prouver que Emmanuel Macron n'avait pas oublié qu'il avait une jambe gauche et que même si on a retenu que les mesures de droite, il y a quand même des mesures plus sociales dans son programme.
Quand on regarde le détail des sondages, quels que soient les instituts, on voit qu'il y a une bonne partie des électeurs, des anciens électeurs socialistes de François Hollande, par exemple, en 2012, qui vont voter Emmanuel Macron dès le premier tour en 2022. C'est-à-dire que le centre-gauche, en fait, est assez largement chez Emmanuel Macron. Est-ce que s'il veut s'adresser à la gauche, c'est pas aussi en pensant au second tour, en pensant à une confrontation avec Marine Le Pen, avec l'idée qu'il ne faudrait pas que des électeurs de gauche, de Jean-Luc Mélenchon, de Yannick Jadot, peut-être même de Fabien Roussel, restent chez eux dans un second tour Macron-Le Pen, et qu'il aura besoin d'eux pour battre et battre largement Marine Le Pen. Il y a aussi ça qu'il a en tête.
Ah ben si, non, c'est évident. Et puis on voit qu'à mesure que l'écart se resserre avec Marine Le Pen, on pourrait finir dans la marge d'erreur pour un second tour. Et Emmanuel Macron, contrairement à Marine Le Pen, n'a pas énormément de réserves de voix. Parce que les mélenchonistes, on ne s'attend pas à ce qu'ils votent Emmanuel Macron comme un seul homme. C'est plutôt le contraire. Donc en fait, le second tour sera assez serré. Et comme la gauche aujourd'hui, elle vote quand même Jean-Luc Mélenchon pour une bonne part... quand l'autre part n'était pas déjà chez Macron, c'est sûr qu'il faut qu'il prépare déjà le second tour, en fait. Il faut qu'il ait le plus d'avance possible au premier tour pour avoir une bonne dynamique et ensuite être le plus loin devant Marine Le Pen au second tour, si c'est possible.
Oui, en même temps, quand
pardon,
on voit...
je vous ai un peu...
Vas-y Mathieu.
Non, je vous ai un peu quitté parce qu'Emmanuel Macron est en train de partir. Voilà,
ah
donc
bon.
Je surveille un
au
peu
revoir,
ce
Emmanuel
qui
Macron.
Se passe à distance.
Et moi, je
voilà,
surveille Mathieu qui surveille Macron.
Il est en train de partir. Après, il fait encore un... Je ne sais pas si c'est un bain de foule. Non, je crois qu'il a arrêté les bains de foule, mais il y a des gens qui essayent de le suivre un peu partout. Enfin, c'est toujours impressionnant ces moments-là parce qu'il y a quand même des mouvements de foule impressionnants dès qu'il fait trois pas. Et donc, c'est ce qui vient de se produire. Mais le cortège est en place. Et là, je pense qu'il ne va pas remettre ça. Il va partir assez vite, là.
Mathieu, c'est bien la deuxième fois que le candidat Macron s'invite dans un de nos podcasts, non ? Il l'avait déjà fait après Poissy, parce que
le cortège était passé devant toi. Tout à fait.
Juste pour revenir, l'autre échange que j'ai vu et qui m'a frappé, d'ailleurs qu'on a diffusé sur BFM TV dans l'après-midi, c'est une réponse à une de tes questions, Agathe, concernant le discours d'Éric Zemmour au Trocadéro. Tu peux nous dire d'abord quelle était ta question et quelle était sa réponse ?
Je lui ai rappelé que hier au meeting d'Éric Zemmour, des militants avaient scandé Macron assassin pendant une dizaine de secondes et que Éric Zemmour ne les avait pas arrêtés, que lui disait, c'était factuel, que lui disait qu'il n'avait pas entendu ses militants. Et donc je voulais savoir ce que le candidat Macron en pensait et il m'a répondu tout en ironie en disant qu'il y avait deux options. Il a parlé d'indignité, il a dit qu'il pensait que c'était une indignité, ou alors le candidat Zemmour était malentendant et qu'il avait fait une très bonne réforme, le 100% santé, qui permettait de rembourser les prothèses auditives notamment. Il conseillait à Éric Zemmour de se renseigner et de pouvoir s'en offrir à bas coût, à moindre frais. C'était assez étonnant cette réponse.
Oui, qu'est-ce que tu as pensé, toi,
président de la République.
Qu'est-ce que tu as pensé de cette réponse à ce moment-là?
À vrai dire, sincèrement, je m'y attendais pas parce que après des mois où Macron était extrêmement sibyllin, tout en allusion, quand il évoquait Zemmour, il ne le mentionnait jamais. Il l'a pas mentionné non plus, mais c'était toujours les mêmes références à l'obscurantisme, à la nostalgie, au repli. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse une réponse aussi concrète et aussi frontale. En fait, il a attaqué frontalement Zemmour. Là, il était vraiment dans son costume de candidat qui a envie d'en découdre. Et on voyait qu'il avait envie de lui répondre et de le taper, en fait, hein, de toute façon assez triviale, voilà. Et donc, c'était étonnant. Parce qu'en en fait, on le suit quand même tout le temps comme président. Et dans cette campagne, il reste extrêmement président. Il reste quand même sur son Olympe. Et donc, on n'a pas l'habitude de le voir parler de cette façon-là de ses concurrents. Même s'il a, en parlé assez cash régulièrement, mais sur ses concurrents, il faisait quand même extrêmement attention à garder de la distance, de la hauteur, surtout pour ne pas leur donner trop d'importance, pour rester bien éloigné de leur petite campagne. Et là, en fait, il est tombé dedans, quoi.
Bon, le cortège est parti. Les services de sécurité se sont fait une petite frayeur parce qu'il y avait plusieurs centaines de personnes au bord de la route et aucune barrière. Ce qui fait qu'ils ont dû former une ligne pour empêcher que les gens aillent sur la route et que le cortège puisse partir. Il y a une bonne dizaine ou une quinzaine de véhicules. Donc voilà, ça y est, c'est fini officiellement. Le déplacement à Dijon est terminé.
Bon, on va devoir en rester là parce qu'on a des problèmes de batterie de téléphone. Ça arrive, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres déplacements du candidat Macron dans les prochains jours. Merci à tous les deux, à Dijon.
Merci,
à bientôt, Philippe.
Bonne soirée.
Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve demain.